Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Au sommaire de ce journal, les 9e jours de la francophonie sont un moment de joie immense et de fierté légitime pour tout un peuple. La déclaration du cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, qui félicite dans un message posté sur son compte Twitter les organisateurs ainsi que tous les autres protagonistes. Les conditions de vie des déplacés vivants dans les sites autour de Goma demeurent préoccupantes. L'accès à l'aide humanitaire reste très limité malgré les interventions des ONG dans ces sites. C'est ce que déclare le président de la société civile de Kisigari, lui-même déplacé de guerre. L'invité de ce journal est la coordinatrice de la plateforme des organisations féminines Saout Yamama Mkongomani. Nelly Lumbulumbu salue la bravoure et la résilience qu'affiche la femme du Nord Kivu dans les conditions socio-politiques et sécuritaires. Voilà pour les titres, les détails dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les 9e Jeux de la francophonie sont un moment de joie immense et de fierté légitime pour tout un peuple. La déclaration est du cardinal Fridolin Ambongo. L'archevêque de Kinshasa félicite dans un message posté sur son compte Twitter les organisateurs ainsi que tous les autres protagonistes. Au-delà de la dimension compétitive de cet événement sportif et culturel qui réunit les nations et a en commun l'usage de la langue française, je forme les vœux de voir que ces Jeux puissent promouvoir chez les jeunes les valeurs morales et humaines comme la fraternité, la solidarité, l'amitié, l'estime de soi et des autres, l'interculturalité, recommande-t-il. Il plaide pour que ces activités se déroulent dans la sérénité et la paix. Effectivement, hier dimanche, plusieurs personnes sont allées visiter les sites culturels retenus dans le cadre des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa. Du côté des artistes, nombreux sont en train de mettre la dernière touche sur les œuvres qu'ils doivent présenter en compétition. Un travail qui va permettre au jury d'apprécier les talents des artistes inscrits à ces Jeux. Ces visites se sont passées sous l'œil attentif de Rosalie Zawadi. Voici son récit.
À l'Académie des Beaux-Arts, les artistes travaillent dans une grande salle. Coups de marteau par ici, des haches par là, des tronçonneuses même. Chacun très concentré sur son œuvre pour l'achever dans les délais. Amidou Chombano Adamou est artiste nigérien. Au-delà de la compétition, il apprécie l'aspect humain de ces jeux.
Ce jeu-là permet de faire des amis comme vous et moi. Ça permet de rencontrer beaucoup de gens qui viennent d'autres pays. Cela fait une diversité culturelle. Tout un chacun doit essayer de tirer un côté de fraternité pour qu'il y ait plus de projets dans l'avenir.
Les visiteurs ont accès à cette salle d'où naîtront des œuvres qui seront soumises au jury des 9e Jeux de la francophonie. Au Musée national, nous avons rencontré des visiteurs qui contemplent des œuvres finies. Alan Kalinga est venu avec toute sa famille et apprécie l'expérience.
C'est très beau, on a beaucoup apprécié. Bien que nous sommes venus en famille, c'était un truc qu'on a décidé hier, bon, on va faire un tour un peu au musée. On a vraiment aimé, bon, sauf que les enfants sont fatigués, mais pour nous, je pouvais rester longtemps.
C'est une semaine très riche en culture qui commence ce lundi sur tous les sites retenus pour ces 9e Jeux de la francophonie.
Rosalie Zawadi sur Radio Kapi. Notez par ailleurs que Mukendi Kalambay, catégorie 79 kilos, est le premier médaillé d'or pour le compte de la RDC en lutte libre. Les conditions de vie des déplacés vivant dans tous les sites autour de Goma demeurent préoccupantes. L'accès à l'aide humanitaire reste très limité malgré les interventions des ONG dans ces sites. C'est ce que déclare le président de la société civile de Kisigari, Gentil Karabuka, lui-même déplacé, déplore le fait que de nombreux n'accèdent pas facilement à la nourriture et autres assistances qu'apportent ces ONG dans les sites. Ces milliers de personnes qui ont fui pour la plupart leur milieu depuis plus d'une année demandent au gouvernement de tout faire pour libérer leur village des mains des rebelles. Cela afin de leur permettre d'y retourner et de mener une vie normale comme avant la guerre. Gentil Karabuka.
Les gens qui viennent de faire plus de 2 ans dans les camps les déplacés. Les assistances aujourd'hui viennent à compte-gouttes. Et les gens sont en train de connaître des accidents matin au soir parce qu'ils n'ont rien à faire. Ils manquent même à manger et ils doivent circuler en train d'aller quémander du matin au soir. Bon, la population de Rutshuru, de Nyiragongo, de Masisi, on n'est pas là pour seulement attendre l'assistance car certaines ONG commencent à prendre déjà comme si donner à quelqu'un l'assistance, c'est une faveur. Hein, c'est un droit d'un déplacé qui est en état de souffrance. On demande au gouvernement à faire ce que la paix revienne dans les différentes zones pour que ce dernier retourne chacun chez soi. Parce que chacun, quand il est chez lui à la maison, cultive des commerçants. Il faut les recommerce. Chacun fait son activité qui lui fait vivre avec la famille. C'est-à-dire le gouvernement doit prendre ses responsabilités pour ramener la paix, la sécurité, que la population rentre. D'ici là, les quatre, il y a la rentrée de l'année scolaire 2023-2024. Ça devient la troisième année blanche. Les autorités font comme s'ils ne voient rien.
Rappelons que la situation n'est toujours pas rassurante dans plusieurs zones de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo à cause des affrontements des groupes armés et les rebelles du M23. En Ituri, un mois après l'attaque qui a coûté la vie à 46 civils dans le site des déplacés de Lala, dans le territoire de Djougou, la situation humanitaire reste catastrophique. Plus de 7850 survivants de cette attaque de juin dernier vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Beaucoup passent la nuit à la belle étoile, y compris le manque de vivres, ce qui les expose à diverses maladies. Ils demandent au gouvernement provincial d'accélérer les processus de paix pour leur permettre de retourner dans leur localité d'origine. D'autres détails avec Ezekiel Mouzalia qui s'est rendu samedi sur ce site.
Des maisonnettes construites en terre couverte de paille disposées de façon désordonnée. Les unes sont derrière les autres, séparées par d'étroites voies. Bienvenue sur les sites des déplacés de Lala dans le groupement anglais dans le territoire de Djougou. Il compte 1840 petites maisons. L'endroit est peu rassurant pour y vivre, mais les déplacés disent ne pas avoir de choix. Mais certains, dont des proches sont enterrés dans une fosse commune à l'entrée du site, ont perdu le courage de rester. Le président du site des déplacés déclare que la vie devient très difficile. Pas de nourriture, ni des soins médicaux. Les installations hygiéniques ne sont confortables. Et beaucoup, comme cette mère, s'interrogent sur l'avenir de leurs enfants.
Les enfants ne sont pas bien nourris. Beaucoup d'enfants sont des orphelins suite à des massacres. Si la guerre ne serait pas là, nous allions fournir des enfants pour la vie et meilleurs fruits.
Les représentants des trois sites des déplacés de Boulé et les leaders communautaires demandent aux autorités de plaider auprès des humanitaires pour leur venir en aide. Pour rappel, le 12 juin, le site des déplacés de Lala est attaqué par des hommes armés. De retour de Lala, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Et puis, face à la crise humanitaire qui reste préoccupante, notamment dans l'est de la RDC, le Programme alimentaire mondial lance à nouveau un appel d'urgence pour le financement de l'aide humanitaire en faveur des populations de Dekivu et de l'Ituri. Le PAM affirme avoir besoin de 557 millions de dollars pour fournir une assistance alimentaire vitale, indique son rapport synthèse du 27 juillet, rendu public hier dimanche. Ce rapport rappelle qu'en RDC, 6,7 millions de personnes sont déplacées et 80% d'entre elles connaissent une crise aiguë de la faim et de la malnutrition qui ne cesse de s'aggraver. Sifa Maguru revient sur d'autres détails de ce rapport.
Avec ses ressources actuelles, le PAM dit avoir du mal à répondre aux besoins de 1,6 million de personnes qu'il cible chaque mois jusqu'en septembre prochain. Cette agence prévient que si elle ne reçoit pas des ressources supplémentaires, elle sera contrainte de réduire le nombre de bénéficiaires dès le mois d'octobre. En ce mois de juillet, le PAM dit avoir intensifié l'aide en espèces alors que les produits alimentaires font défaut. Ce rapport montre des besoins qui s'élèvent à 557 millions de dollars pour l'aide d'urgence, 552 millions de dollars américains pour la nourriture et l'argent liquide d'urgence, mais aussi 5 millions de dollars américains pour les traitements de la malnutrition. Le PAM déclare en outre qu'il opère dans un contexte extrêmement difficile et se sent obligé d'adapter ou de modifier ses opérations si nécessaire. Cependant, la présence des groupes armés contraint l'accès sur les axes d'approvisionnement et empêche le PAM d'atteindre les communautés qui ont le plus besoin d'aide. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
L'ouest de la RDC n'est pas par ailleurs épargné par la crise alimentaire, conséquence de l'insécurité. Plus de 50 décès sont enregistrés parmi les déplacés de Kwamout dans les Maïndombé qui ont été accueillis depuis août 2022 à Bandundouville dans les Kwilu. Dans un mémorandum au gouverneur du Kwilu, ces déplacés renseignent que ces décès sont dus aux conditions précaires dans lesquelles ils vivent. Au regard de toutes ces difficultés, ils demandent que tout soit fait par les autorités pour leur permettre de quitter ce site et de retourner dans leur village d'origine. Suivez un extrait de leur mémo lu par Richard Mputuboyi, l'un d'eux.
Nous, déplacés des conflits Tekeyaka dans la ville de Bandundu, avec beaucoup de difficultés que nous traversons ici dans notre site, nous avons enregistré déjà 52 cas du décès, avec beaucoup d'enfants souffrant de la malnutrition, nous déplacés. Nous sommes devenus un objet de moquerie dans la ville de province de Kouil. Les mamans quittent le pavillon à 5h pour aller chercher ne fût-ce qu'un 3000 francs pour survivre. Nous vous demandons, après cette séance, vous passez dans le pavillon 6, voir l'état d'un enfant de 5 mois qui souffre de la méningite pour le manque de moyens. Vous allez fuir. Nous vous demandons de nous trouver la solution pour que nous puissions quitter ces milliers de souffrances.
Des propos recueillis par Irène Boma. Pendant ce temps, à Kinshasa, les Congolais qui travaillent dans les secteurs du commerce tenus par des expatriés, notamment les Indo-Pakistanais, Libanais et autres Chinois, crient à nouveau leur souffrance. Ils dénoncent les mauvaises conditions de travail auxquelles ils sont soumis de la part de leurs employeurs. Les multiples appels lancés à l'endroit des autorités n'ont rien donné, déplorent ces travailleurs réunis au sein de l'ATCO, l'Association des travailleurs du Congo. Face à la presse en début de week-end à Kinshasa, le président de l'ATCO a interpellé à nouveau les autorités d'intervenir en vue de les aider à trouver une solution durable à leurs revendications. Les propos de Belsi, Ngandi, Abdoul ont été recueillis par Jacques-Yves Molima.
Oui, effectivement, nous sommes en train d'interpeller juste l'inspecteur général du travail de nous aider au niveau du secteur du commerce. Le secteur du commerce, rien ne marche. Nous interpellons alors encore le ministre du Travail de nous aider par rapport à ce qui se passe au niveau du secteur du commerce. S'il y a moyen, depuis qu'ils étaient ici, il n'y a rien qui change. Et puis nous interpellons encore le premier ministre, qui est le chef de gouvernement, de nous aider au niveau du secteur du commerce, parce que peut-être demain, après demain, ça peut dégénérer, ça ne sera pas bien. Et puis nous interpellons pour la seconde fois au chef de l'État de nous aider, de puisse y regarder. D'ailleurs, nous sommes dans la francophonie, nous sommes en train de regarder. Nous ne voulons pas que ça puisse dégénérer, s'il peut nous aider au niveau du secteur du commerce.
Et puis la route nationale numéro 1 pourrait se couper en deux au niveau de la ville de Kenge par une grosse tête d'érosion. Ce ravin se situe sur une montagne et une courbure au sortir du chef-lieu de la province du Kwango. Il ne reste plus que 3 mètres au maximum pour que la chaussée soit entamée. La coupure de cette route va entraîner la suspension du trafic entre les provinces du Kwilu, Kwango et Kinshasa. Des descentes et des rapports ont été faits pour la réhabilitation, mais jusque-là, rien n'est encore fait. Le maire de la ville de Kenge, Noël Kukekuta, plaide pour une intervention urgente du gouvernement. Il a été joint par Irène Boma.
Cette érosion s'est faite avec la grande pluie du 2 mai. C'est là qu'il y a eu cette subluxion. C'est un endroit qui n'est pas fréquenté par les hommes. Vu la raideur de cette montagne, c'est trop accentué comme montagne. Les gens n'y pénètrent pas, mais c'est par subluxion que ça avait eu lieu. Nous avions appelé l'office des routes, on a fait les constats. C'est parmi les demandes que nous avions faites. Jusque-là, la BTC, qui est l'organe de contrôle, était venue voir ce que nous avions demandé. Nous attendons jusque-là. La route est gravement menacée. Cette érosion est à pratiquement, si on peut dire, si on peut aller plus, c'est 3 mètres. Mais c'est pratiquement 2 mètres de la route. Comment ne pas dire que la route n'est pas menacée? La route est gravement menacée. Vous savez, avec les vibrations des véhicules qui passent tout le temps, ça risquerait que ça puisse emporter aussi une partie de la route.
Le Congo-Brazzaville coupe court à toutes les rumeurs faisant d'une volonté de nuire les autorités de Brazzaville vis-à-vis de celles de Kinshasa. Nous soutenons la nécessité de trouver toutes les solutions pacifiques à toutes sortes de conflits politiques, diplomatiques, voire de conflits violents. Le président Denis Sassou Nguesso est un médiateur né. Déclaration de Thierry Mungala, porte-parole du gouvernement du Congo-Brazzaville. Il recadre ainsi l'opinion qui répand l'idée selon laquelle le Congo-Brazzaville entretiendrait des relations avec le Rwanda de nature à provoquer une déstabilisation de la RDC. Le ministre congolais de Brazzaville, en charge de la communication, répondait ainsi à une question de la presse quinoise au sortir d'une audience que le premier ministre Jean-Michel Samalukonde a accordée à son homologue brazzavillois Anatole Colinette Makosso. Thierry Mungala, porte-parole du gouvernement brazzavillois, met en garde les médias des deux pays quant à leur rôle d'informer de manière professionnelle. Il est au micro de Billy Van Lutumba.
Le président Denis Sassou Nguesso, dans le cadre des usages diplomatiques, a répondu un peu plus d'une année plus tard à une visite d'État du président Kagame à Brazzaville. Et dans les usages diplomatiques, il est prévu que la réciprocité de ce type d'échange, de contact, soit faite dans les mois qui suivent. Deuxièmement, c'est une coopération agissante sur le plan économique. Vous évoquez Maluku. Maluku, chez nous, c'est une zone économique, une zone industrielle. Dans laquelle nous avons l'intention, dans le cadre du projet de diversification du gouvernement, qui n'est que la traduction programmatique du projet de société du chef de l'État, nous allons y implanter des industries, des manufactures, comme on dit. Eh bien, il ne s'agit de rien d'autre que de cela. Quant aux terres, nous avons un volet de développement agricole qui est extrêmement important dans le projet de société du président de la République, eh bien, nous avons un certain nombre de partenaires avec lesquels il y a ces baux amphithéotiques, c'est-à-dire la mise à disposition de terres pour que une production agricole permettant de réduire notre déficit alimentaire puisse se produire. Il n'y a pas qu'avec la partie rwandaise, il y a des entrepreneurs, des agriculteurs, des fermiers sud-africains, il y a d'autres nationalités qui viennent. Et je comprends par contre qu'effectivement ces questions soit sensible pour la République démocratique du Congo.
Actualité internationale.
Au Gabon, 846 000 électeurs appelés aux urnes pour les élections générales du 26 août prochain. Ce chiffre a été révélé hier dimanche par le ministre de l'Intérieur Lambert Noël Mata lors de la cérémonie de remise des listes électorales au président du Centre gabonais des élections, Michel Stéphane Bonda. Et puis l'opposant sénégalais Ousmane Sonko, qui a été arrêté vendredi et mis en cause pour appel à l'insurrection et autres crimes et délits, a annoncé sur les réseaux sociaux avoir entamé une grève de faim hier dimanche. En conférence de presse, les avocats de l'opposant sénégalais s'en sont pris au procureur de la République qui a fait arrêter leur client.
L'invité.
L'invité de ce journal est la coordinatrice de la plateforme des organisations féminines Saout Yamama Mkongomani. Nelly Lumbulumbu salue la bravoure et la résilience qu'affiche la femme du Nord Kivu dans les domaines sociaux et politiques et sécuritaires. C'est en marge de la commémoration ce 31 juillet 2023 de la Journée internationale de la femme africaine. Nelly Lumbulumbu s'entretient avec Sifa Maguru.
Madame Nelly Lumbulumbu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'une des femmes leaders au Nord Kivu. L'une des femmes engagées dans la société civile, dans la politique. Ce lundi, 31 juillet, le monde entier célèbre la Journée internationale de la femme africaine. Que pouvez-vous dire par rapport à l'engagement de la femme au Nord Kivu dans divers domaines? Comment on peut percevoir cet engagement de la femme, son implication dans la vie politique, socio-économique?
Merci beaucoup. Bon, en fait, je voudrais tout d'abord saluer toutes les femmes de la RDC et plus particulièrement celles de la province du Nord Kivu qui se battent au quotidien, surtout quand on sait que la province du Nord Kivu traverse une crise humanitaire assez aiguë. Ici, je voudrais d'abord saluer le fait que les femmes du Nord Kivu sont plus résilientes. 20 ans de guerre, c'est trop. Je vais ici, par exemple, parler des femmes qui sont dans la société civile, qui se battent au quotidien pour lutter contre les violences sexuelles, contre les violences multiformes qui sont faites à l'égard des femmes, à l'égard des filles. On peut aussi parler de toutes ces femmes politiques qui se sont engagées pour, malgré des difficultés liées au conflit, liées à l'économie, mais elles sont là, elles se battent nuit et jour pour en fait aussi avoir une place de choix dans les sphères politiques. Je parlerai aussi également des femmes qui sont dans l'économie, formelles et informelles. Ce sont elles qui nous amènent à manger ici. Donc je vais vraiment dire que les femmes de la province du Nord Kivu, ce sont des femmes exceptionnelles. On voit même les femmes dans le mine qui sont là, qui sont exploitées, surexploitées, qui ramassent des minéraux pour d'autres personnes, mais elles restent pauvres. Donc il y a beaucoup de difficultés que traversent les femmes. Au-delà de tout ce qu'elles sont, nous pensons qu'elles sont des femmes braves.
Vous avez évoqué l'un des problèmes majeurs que connaît la province du Nord Kivu, notamment les problèmes de l'insécurité. Est-ce que les femmes du Nord Kivu ont fait quelque chose? Est-ce qu'elles ont fourni un effort dans tous les mécanismes et les démarches pour la restauration de la paix et la sécurité?
Les femmes du Nord Kivu sont même, je dirais, au front. Elles ont beaucoup travaillé, surtout sur les questions de paix, des femmes actrices de paix et de changement. Et nous avons vu des femmes qui sont allées même dans le front pour discuter avec les rebelles, pour leur demander de cesser avec la guerre. Hein, il y en a ici des femmes leaders, des femmes vraiment pionnières dans ces domaines de résolution de conflits. Elles sont là pour faire des médiations de conflits interethniques, mais également pour amener la paix dans leur milieu. Donc on a vu des femmes sur tous les fronts, au niveau de leur communauté, surtout en ce qui concerne la paix, et on sent qu'elles ont beaucoup fait. Elles ont été sur les tables de négociation malgré qu'elles n'ont pas été invitées. Elles s'invitent elles-mêmes, elles vont jusqu'à Nairobi pour chercher la paix. Elles ont été ici à Goma à travers la conférence du Kivu. On a vu les femmes poser la question à ces femmes-là. Comment elles font pour parvenir à assurer leur résilience? Parce que la difficulté aujourd'hui qu'elles traversent, c'est plus la question des paix. Il y a un développement, les femmes ont créé des entreprises ici. On a vu des femmes qui créent des entreprises, des femmes entrepreneurs. Mais après, avec la situation de conflit, la guerre, ça crée encore des reculs. Il n'y a pas que la guerre, il y a aussi d'autres faits, comme les facteurs, comme les us et coutumes, qui continuent à vilir la femme.
Là, ce sont les défis maintenant qui rencontrent ces femmes.
Elles se battent contre les us et coutumes, mais également contre la guerre. Donc...
Et à l'occasion de cette journée internationale de la femme africaine, quel message adressez-vous spécifiquement à toutes les femmes du Nord Kivu?
D'abord, je voudrais dire à toutes les femmes de la province du Nord Kivu de savoir que cette situation se terminera un jour. Et nous pensons que nous devons continuer à nous battre pour notre paix. Les droits s'arrachent, comme on dit. Nous devons fournir des efforts pour démontrer aux yeux de toute l'humanité que nous avons le droit à la paix. Nous avons le droit à la paix, nous avons le droit de vivre, nous aussi comme les autres femmes, sur des espaces sûrs, de travailler, de continuer à bousculer pour que le développement de la femme, surtout la femme de la province du Nord Kivu, soit une réalité.
Merci beaucoup, Madame Nelly Lumbulumbu. Je rappelle que vous êtes coordonnatrice de la plateforme Sauti ya Mama Mkongomani, basée au Nord Kivu.
Merci beaucoup, Madame Sifa.
Nelly Lumbulumbu était notre invitée dans un entretien à Goma avec Sifa Maguru. Merci de continuer à suivre ce journal sur toutes les plateformes digitales de Radio Okapi.